VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
17h à Dakar, 18h à Kinshasa, bienvenue à notre journal. En RCA, 3 personnes tuées hier et 3 autres grièvement blessées dans les violences à Bambari dans le centre-est du pays. Des accrochages y ont opposé des anti-balakas à des peuls armés non loin de camps de déplacés en plein centre de la localité. Plus de précisions avec notre correspondant à Bangui, Freeman Sipila.
L'affrontement s'est produit jeudi sur le site des déplacés de Fed et de la Sangaris à Bambari. Selon une association locale de la société civile, 3 civils dont une femme ont été tués après avoir été retenus en otage par des peuls armés assimilés aux éléments du général Ali Daras, chef de l'UPC, l'unité du peuple centrafricain, une branche de l'ex-Séléka. 3 autres personnes blessées sont prises en charge à l'hôpital de la ville. La même association accuse la mission onusienne locale qui, selon elle, n'est pas intervenue à temps pour sauver la situation. Elle s'inquiète aussi de l'indisponibilité des forces de sécurité intérieure, notamment la gendarmerie centrafricaine, à venir au secours de la population civile. Côté forces onusiennes en Centrafrique, aucune réaction officielle n'est encore enregistrée. Fin février, un commandant de l'UPC a accusé les anti-balakas d'avoir violé le pacte de non-agression signé entre les deux rivaux en tuant 2 membres de la communauté musulmane à une 20aine de kilomètres de Bambari. Accusation rejetée par la coordination des anti-balakas, mettant en cause un autre groupe armé. Cette nouvelle tension intervient alors que les différentes communautés de Bambari commençaient à enterrer la hache de guerre. Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
Mission de maintien de la paix de l'ONU en Afrique. L'ONU a recensé l'an dernier 69 cas d'abus sexuels qui auraient été commis par ces casques bleus. Le rapport annuel du secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, note une nette augmentation par rapport à 2014, où il y avait eu 52 cas, et 2013 avec 66 cas. D'après l'AFP, ces cas sont concentrés sur 2 pays, la République centrafricaine et la République démocratique du Congo. Le rapport recommande de créer des cours martiaux sur place pour juger les coupables et de prendre les empreintes génétiques des casques bleus. Au Soudan du Sud, l'ONU a revu à la hausse le bilan de l'attaque d'un camp de déplacés à la mi-février. Dans un rapport publié aujourd'hui, le Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l'ONU, OCHA, annonce qu'au moins 25 civils ont été tués, 120 blessés par des hommes armés portant des uniformes de l'armée gouvernementale. L'ONU avait dans un premier temps fait état de 7 morts et une quarantaine de blessés dans l'attaque de ce camp proche de la base onusienne de Malakal, capitale de l'état pétrolier du Haut-Nil. L'ONG Médecins Sans Frontières avait, elle, parlé d'au moins 18 morts et 90 blessés. Élection présidentielle au Tchad maintenant. La Cour constitutionnelle doit se prononcer aujourd'hui sur les recours introduits par les candidats dont elle a rejeté les dossiers pour diverses raisons. Parmi la dizaine de candidatures à la présidente écartée figure celle de l'opposant historique Ngarledi Yowangar et de l'ancien premier ministre de la transition Fidel Mungar. Écoutez ce qu'en pense le professeur Ahmad Mahamat Hassan, constitutionnaliste et enseignant de droit à l'université de N'Djamena.
Il me semble qu'il y a certains rejets qui ne répondent pas aux critères objectifs de violation de la loi électorale, notamment les questions, par exemple, de non-présentation de photos ou d'oubli, qui n'est pas une question intentionnelle, par exemple, pour le candidat Yowangar Ngarledi, ou bien pour d'autres également, pour qui n'ont pas de raisons fondamentales assez sérieuses pouvant justifier le rejet à ce niveau-là.
Le professeur Ahmad Mahamat Hassan, constitutionnaliste et enseignant de droit à l'université de N'Djamena au Tchad.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Élection présidentielle au Bénin, 33 candidats s'affrontent dimanche pour la magistrature suprême. Le président sortant Thomas Boniayi ne se représente pas après 2 mandats, conformément à la Constitution. Les 5 favoris, le premier ministre sortant Lionel Zinzou, 2 des plus gros hommes d'affaires locaux, Patrice Talon et Sébastien Djavon, et 2 banquiers internationaux, Abdoulaye Bio Tchane et Pascal Irénée Koupaki. Pour une analyse de la course à la présidence, Eric Manirakiza joint à Cotonou le professeur de droit constitutionnel Jean Aïvo.
Après 10 années de gouvernance du président Boniayi, le Bénin fait face à une crise morale, crise éthique, à un effondrement de sa vie politique, du système partisan. Et l'enjeu majeur, c'est de trouver les bonnes réponses qu'il faut aux problèmes qui se posent dans le pays et au fond de savoir quel est parmi tous ces candidats celui qui est capable de porter les aspirations des Béninois et de trouver des approches de solutions. Au problème, surtout au problème économique et sociaux qui s'opposent à notre pays.
Donc, le successeur constitue en lui-même un enjeu majeur.
Le successeur constitue un enjeu majeur parce que, comme vous le savez, heureusement ou malheureusement, l'élection va probablement se jouer contre les indépendants, parce que les cinq qui forment le quintet de tête, parmi lesquels je pense probablement que les Béninois choisiront le chef de l'État, ces cinq n'appartiennent pas à des formations politiques, c'est cinq indépendants, ce qui projette encore plus violemment la crise du système partisan béninois, que désormais le Bénin semble fonctionner comme une démocratie privée, une démocratie personnelle, où seules les ambitions personnelles, seules les aventures personnelles triomphent parfois de l'organisation des partis politiques. Donc cet enjeu a vu quand même la classe politique béninoise complètement reconfigurée, d'autant que vous avez la majorité au pouvoir qui s'associe à l'opposition, ou vice-versa, l'opposition qui s'associe à la majorité pour soutenir un candidat, Lionel Zissou, en face duquel vous avez plusieurs autres hauts cadres du pays et parfois des magnats, ce qu'on appelle des opérateurs économiques qui tiennent un peu le poumon économique du pays. Donc vous avez en gros une élection qui va se jouer malheureusement en dehors des formations politiques, parce qu'aucun parti politique n'a présenté de candidat sorti de ses rangs. C'est pour moi un signe de l'échec de notre système partisan et de ce que l'élection qui va se jouer et le mandat qui va s'ouvrir à partir du 6 avril est un mandat de chantier, est un vrai mandat de chantier. Et celui-là doit avoir l'intelligence nécessaire pour rassembler les Béninois, mais surtout pour trouver les solutions aux problèmes économiques, politiques et sociaux qui se posent à notre pays.
Est-ce que les règles de jeu sont-elles verrouillées?
L'élection au Bénin est très ouverte. Elle est très ouverte. Personne ne peut dire, et je ne connais vraiment pas d'analyste, qui peut avancer que tel gagnera et tel ne gagnera pas. C'est pour vous dire que le jeu est ouvert et que malgré le contrôle de la Sénat par les institutions ou parfois, on dit, par la majorité, on ne peut pas dire que le président Boni a verrouillé le jeu pour que triomphe son candidat. Personne ne peut le dire. C'est une élection totalement ouverte, je dirais incertaine. Et c'est ça qui fait parfois la beauté de la démocratie.
Joël Aïvo, professeur de droit constitutionnel à Cotonou, au Bénin. Toujours en Afrique de l'Ouest, la Mauritanie institue une journée nationale de lutte contre l'esclavage qui sera célébrée chaque année le 6 mars. Objectif, aider à éradiquer ce fléau qui perdure en dépit de son abolition dans le pays depuis 35 ans. Nathalie Barge.
Le Conseil des ministres réuni ce jeudi a adopté un projet de décret instituant une journée nationale de lutte contre les pratiques esclavagistes, indique le gouvernement dans un communiqué publié par l'agence mauritanienne d'information. Selon l'AFP, citant un haut fonctionnaire, cette journée sera commémorée tous les 6 mars, date à laquelle la Mauritanie a adopté en 2014 une feuille de route pour l'éradication de l'esclavage, élaborée avec l'appui de l'ONU. Cette journée devrait en principe être observée pour la première fois dimanche prochain, selon le fonctionnaire. En 2015, la Mauritanie a adopté une nouvelle loi faisant de l'esclavage un crime contre l'humanité, réprimé par des peines allant jusqu'à 20 ans de prison ferme contre 5 à 10 ans auparavant. Fin 2015, elle a annoncé la création de 3 cours criminels spécialisés en matière de lutte contre l'esclavage qui siégeront à Nouakchott, Nema et Nouadhibou.
Primaire présidentielle aux États-Unis maintenant, la course à l'investiture républicaine pour la présidentielle de novembre devient une véritable joute verbale entre les différents candidats. C'est à qui critiquera le plus ses concurrents et la principale cible est le milliardaire Donald Trump qui domine la course à la présidence côté républicain. Miley Segal.
Au cours de leur débat de jeudi à Détroit, les rivaux de Trump ont tour à tour critiqué l'homme d'affaires new-yorkais. Le sénateur Marco Rubio a dit que Donald Trump allait perdre contre Hillary Clinton et Trump a répliqué qu'il avait déjà battu l'ancienne secrétaire d'État dans plusieurs sondages. Les deux candidats se coupaient constamment la parole, si bien que le débat devenait incompréhensible, tournant uniquement autour d'insultes personnelles. L'un des moments les plus bizarres, c'est lorsque Trump s'est vanté de ses prouesses sexuelles au détriment de Rubio, qui a récemment raillé la taille des mains de Trump. Le sénateur Ted Cruz a de son côté essayé de rester en dehors de cette bataille verbale, mais il n'a pas résisté à se moquer de Trump et de sa promesse de campagne de rendre l'Amérique grande à nouveau. Ted Cruz essaie de convaincre les électeurs qu'il est l'alternative aux milliardaires. La même chose du côté du gouverneur de l'Ohio, John Kasich, qui plaide en faveur de sa maturité par rapport au jeu d'enfant auquel se livrent, selon lui, les autres candidats républicains. Pour l'heure, Donald Trump est le seul candidat républicain sur la bonne voie pour gagner les nécessaires délégués et décrocher l'investiture.
Et pour terminer, en Algérie, des centaines de migrants africains ont été transférés vers le sud du pays pour être ultérieurement reconduits chez eux. Ils viennent du Niger, de la Gambie, du Sénégal, de la Guinée, du Tchad, de la Côte d'Ivoire et du Cameroun. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voaafrique.com.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.